la dignité, cette émission mensuelle sur les droits humains avec Amnesty International et Régis Coulange, bien sûr, responsable formation à Amnesty pour cette émission du mois. Bonjour Régis.
Oui, bonjour Odile. Bonjour à tous.
Alors, un sommaire avec des tristes nouvelles.
Oui, en effet, puisqu'on déplore la mort en détention d'Alexeï Navalny, on va en reparler. On a de grandes inquiétudes concernant aussi Julian Assange, qui risque d'être ramené aux États-Unis, ce qui serait une catastrophe pour lui et pour la liberté d'expression. Et puis, bien sûr, le décès de Robert Badinter, qui nous a beaucoup affectés, parce que c'était un militant des droits humains, contre la peine de mort, bien sûr. Et son combat reste vivant, on va en parler. Et puis, bien sûr, l'urgence qu'il y a actuellement dans la bande de Gaza, avec cette situation humanitaire catastrophique. Et puis on parlera bien sûr des actions du groupe Dinois. Alors on va commencer par revenir sur l'exposition artistique en soutien à Luis Manuel Otero Alcantara, qui est un artiste cubain qui a été condamné à 5 ans de prison pour avoir voulu défendre la liberté d'expression. Nous avons fait une exposition à Digne, en décembre, et puis cette exposition a tellement plu qu'on s'est dit on va l'installer à Sisteron. Donc elle a été mise à la galerie Domine, qui est une galerie qui appartient à la mairie et que la mairie nous a gracieusement prêtée. Elle s'est déroulée du 6 au 17 février, elle a eu beaucoup de succès, un vernissage avec 60 personnes, et puis pendant les 15 jours, beaucoup de gens sont venus. Il y avait notamment, bien sûr, Frédéric Maillard qui avait fait une œuvre, qui est une artiste qui vit près de Sisteron et qui donne des cours, et beaucoup de ses élèves aussi ont fait de très belles réalisations. Cette expo a été enrichie par rapport à celle de Digne par d'autres œuvres. Les artistes ont créé de nouvelles œuvres et d'autres se sont joints à notre exposition. Et donc on espère, on voulait la mettre à Manos, mais ça paraît difficile parce qu'il n'y a pas tellement de salles d'expo libres. Et voilà, on travaille sur peut-être la mettre à Barcelonnette en septembre, voilà, parce qu'en été c'est tout pris, hélas. Et bon, on en reparlera si ça se fait. On va écouter un montage audio qui a été fait par Michel Boninfou sur justement cette exposition et ce soutien à Luis Manuel Otero Alcantara. Donc vous allez entendre des musiques cubaines, un peu parler espagnol aussi. Et ça résume un petit peu la situation de notre défenseur des droits humains emprisonné à Cuba.
Signé par le président Díaz-Canel, le décret 349 est entré en vigueur en décembre 2018. Au titre de ce décret, tous les artistes, y compris les collectifs d'artistes, les musiciens et les comédiens, ont l'interdiction de se produire dans des lieux publics ou privés, sans l'autorisation préalable du ministère de la Culture. Les particuliers et les entreprises qui engagent des artistes sans cette autorisation peuvent être sanctionnés, et les artistes qui fournissent leurs services sans autorisation préalable encourent une confiscation de leur matériel et une amende. Le nouveau décret prévoit également que les autorités ont le pouvoir de suspendre immédiatement une représentation et de proposer l'annulation de l'autorisation accordée pour une activité artistique. Ces décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant le ministère de la Culture. Le décret ne prévoit pas de recours effectif permettant de faire appel d'une telle décision devant un organe indépendant, pas même devant les tribunaux.
Mi nombre es Manuel de la Cántara. Soy artista visual, activista por los derechos humanos en Cuba. Y un soñador que cree, y más que todo trabaja, abrazo partido por la libertad de Cuba. Soy de La Habana, nací en el Cerro, en la República Cubana.
En juillet 2021, l'artiste cubain Luis Manuel Otero Alcantara a diffusé une vidéo dans laquelle il déclare qu'il participerait à une manifestation dans sa ville, La Havane. Il a été arrêté avant d'arriver sur le lieu du rassemblement, puis condamné à 5 ans d'emprisonnement. Luis Manuel Otero Alcantara est un militant et artiste noir autodidacte de Cuba. Sa maison de San Isidro, l'un des quartiers les plus pauvres de La Havane, est un refuge pour la communauté, une maison ouverte où rencontrer des personnes et créer des liens. Frustré par le décret 349, Luis Manuel est devenu un dirigeant du mouvement San Isidro, un groupe d'artistes, de journalistes et de militants de tous horizons qui défend le droit à la liberté d'expression et dont les membres sont victimes d'actes d'intimidation, placés sous surveillance voire détenus. Le 2 mai 2021, des agents de la Sûreté de l'État sont allés chercher Luis Manuel à son domicile, où il observait une grève de la faim pour protester contre la saisie de ses œuvres par les autorités. Ils l'ont emmené dans un hôpital et coupé du monde extérieur. Après sa libération, un mois plus tard, les forces de sécurité ont continué à surveiller tous ses faits et gestes. Le 24 juin 2022, il a été condamné à 5 ans de prison, à l'issue d'un procès à huis clos. Il voit son état de santé se dégrader en prison et ne bénéficie pas de soins médicaux adaptés.
Une invitation par mes amis pour une exposition d'Amnesty International à la médiathèque de Digne-les-Bains, que je remercie vivement pour cette rencontre absolument invraisemblable entre des artistes peintres, des artistes sculpteurs, des personnes impliquées dans le monde de l'art et qui d'un coup prennent conscience que peut-être il faut faire quelque chose pour tous ces artistes qui l'ont. On va couper la parole, on va couper les mains, on va couper les doigts, on va enlever les pinceaux et les crayons pour juste la liberté de s'exprimer, de vivre et de penser.
Béatrice Derval, artiste peintre et dessinatrice textile.
Ce travail, ce collage, parce que finalement j'ai fait un collage, un deuxième collage parce que j'avais fait un premier travail au Printemps des Poètes à Valoris sur le thème des migrants. J'ai donc eu une photo, c'est ce qui avait été distribué à tous les artistes, une photo du peintre en noir et blanc, avec laquelle j'ai vécu pendant plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Donc je l'ai intégrée dans mon quotidien. Et à l'époque, c'était au début de l'hiver 2023, j'avais démarré une série de collages sur ma famille, sur des cousins, des neveux, des nièces, des petits-enfants, des personnes âgées. Juste des portraits qui ne symbolisent pas du tout mon univers artistique. C'était un peu, une aventure sur le portrait. Et Louis est venu se greffer tout seul. Donc les plus grands formats, il y a toujours une image centrale. Comme pour Luis Manuel Otero Alcantara, j'ai décidé de déchirer avec mes petits doigts et de faire une spirale. Pour moi, ça symbolisait une cible sur laquelle on peut tirer, sur laquelle on peut faire toutes sortes de choses. Il est une cible. Il a été pris par le gouvernement cubain comme cible d'artiste.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tú 5'9", yo doble 2.
Patria y vida. C'est terminé, le peuple est fatigué, clame la chanson qui appelle à une nouvelle aube sur l'île, en alignant les critiques contre le gouvernement et l'héritage de la révolution de 1959, dont il détourne l'emblématique La patrie ou la mort. Le clip fait également référence à la mobilisation historique du 27 novembre, quand quelques 300 artistes s'étaient rassemblés pendant une quinzaine d'heures face au ministère de la Culture pour exiger plus de liberté d'expression.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque en él pensan diferente.
Los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez Osorbo han sido condenados a 5 y 9 años de prisión, respectivamente, por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, entre otros, según anuncia en una nota la Fiscalía. Amnistía Internacional asegura que son presos de conciencia y el juicio ha sido criticado por ONG internacionales que hablan de juicio político, fabricación de pruebas, ausencia de garantías y también limitaciones de acceso a las audiencias.
Bueno, Luis Manuel Otero Alcántara ha realizado una obra desde la cárcel, ha logrado sacar de Cuba. Nos acompaña Claudia Genluí Hidalgo, que es historiadora.
Luis Manuel Otero Alcántara, Cuba.
En Cuba ahora mismo, artistas que simplemente por su forma de pensar, ahora mismo están en prisión.
Creating work that has a tangible impact on Cuban freedom of expression is at the heart of what performance artist Luis Manuel Otero Alcántara does.
Oui, j'ai été très sensible au cas de Luis Manuel Otero Alcántara quand Régis Coulanges, qui est le représentant d'Amnesty, m'a demandé de réaliser une œuvre pour le soutenir et soutenir cet artiste qui est emprisonné et soutenir aussi, ce qui est très important, la liberté d'expression pour les artistes.
Frédéric Maillard, sculpteur.
Donc Régis m'avait demandé aussi d'en parler à mes élèves, comme je donne des cours de peinture et sculpture. Et 4 de mes élèves ont répondu. Et je trouve ça merveilleux que tous les artistes, enfin certains artistes du département, se sont mobilisés pour cette cause. Et quoi de plus terrible pour un artiste que d'être enfermé dans une prison et de ne plus pouvoir créer son œuvre. Tout ça parce qu'il a fait son œuvre pacifiquement et librement à Cuba et qu'on l'a enfermé pour ça. Je vois pas où est le crime de travailler librement sur ce qu'on a envie de dire par notre sculpture ou notre peinture. Et donc j'ai voulu réaliser le visage de Luis Manuel enfermé dans un tronc d'arbre qui est creux, qui symbolise la prison, et avec son visage un peu amaigri puisqu'il a fait une grève de la faim, et ses deux mains qui sont liées pour ne plus créer. Et son histoire m'a bouleversée et touchée au plus profond de moi-même, dans mon sens artistique.
Sus vidas, que el servirme a mí y a mis proyectos más grandes que nosotros mismos, como alguna vez llegué a decir. Discúlpenme.
Deux jeunes artistes cubains avaient promis de dévoiler le testament de Fidel Castro lors du Festival Orpiste 2018, qui s'est tenu au Centre Georges Pompidou. Luis Manuel Otero Alcántara, l'un des deux artistes, annonce d'emblée « Le chef de la révolution cubaine m'est apparu en rêve et m'a informé que, durant les derniers jours de sa vie, il avait secrètement écrit un testament. Le rêveur s'est vu confier la mission de le rendre public parce qu'il est un Cubain ordinaire, libre de tout haine extrémiste. Malgré ses précautions, la présentation a suscité une virulente réaction des sympathisants castristes venus en nombre au centre Pompidou, comme s'ils étaient en service commandé.
Pido disculpas por calumniar el pasado de esta nación solo para enaltecer el presente que les ofrecía. Disculpas por todo el futuro que les pude negar. Patria y vida, venceremos.
Patria y vida.
Patria y vida.
Patria y vida.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me debes tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, bancada dominó, bombo de platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara y a Martí con la divisa.
Voilà. Donc un grand merci à Michel Bonafou qui a réalisé ce montage audio. Et puis merci aussi aux artistes, vous en avez entendu deux, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour créer des œuvres de soutien. Et je voudrais aussi remercier le maire de Sisteron, M. Daniel Spagnou, qui non seulement a été là au vernissage, mais nous l'avons sollicité pour qu'il écrive une lettre. Et donc il a fait une lettre personnalisée au président cubain pour demander la libération de notre prisonnier d'opinion, Luis Manuel Otero Alcantara. Donc voilà, au nom de son conseil municipal et de lui-même. Et on a été très touchés par ce courrier qu'il nous a fait bien sûr parvenir. Et on espère qu'à la mairie de Digne, ils auront fait pareil. Je n'ai pas eu de nouvelles. Voilà. Bon, on va maintenant parler de cette triste nouvelle qui est tombée le vendredi 16 février. Alexei Navalny est mort en détention dans une colonie pénitentiaire russe. Ils l'ont tué, a déclaré Agnès Callamard, secrétaire général d'Amnesty International, suite à l'annonce de sa mort. Le Kremlin cherchait depuis des années à faire taire Navalny. Sa condamnation à 19 ans de prison était uniquement motivée politiquement. En décembre 2023, il avait été déplacé dans la colonie pénitentiaire la plus reculée de Russie, au nord du cercle polaire arctique. C'est ici, isolé du monde, que Navalny est mort en détention. Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses proches. Cela fait des années que nous menons des actions de mobilisation. Nous scandons avec ferveur « Free Navalny ». Nous sommes encore sous le choc de la mort, mais nous allons continuer le combat et nous battre pour que justice soit rendue. Avocat de formation, Navalny crée en 2011 la Fondation Anticorruption. Avec ses équipes, il menait des enquêtes documentant la corruption au plus haut niveau de l'État. Pour ce travail, Navalny et plusieurs employés de la Fondation ont subi des représailles. En 2011, il se fait connaître du grand public au moment d'importantes manifestations organisées contre des fraudes aux élections législatives. Navalny deviendra alors de plus en plus présent sur la scène politique russe. Il se présentera à plusieurs élections. En 2013, il est candidat à la mairie de Moscou. Il finira en deuxième position. En 2018, il tente de se présenter à l'élection présidentielle, mais la justice russe le déclare inéligible. Les autorités russes semblaient déjà déterminées à faire taire cette voix contestataire. Par le passé, Alexei Navalny a pu tenir des propos pouvant s'apparenter à un appel à la haine. Nous tenons à rappeler que nous condamnons ces propos susceptibles de constituer une incitation à la discrimination, à la violence ou à l'hostilité. Mais il ne doit pas y avoir de confusion. Rien de ce qu'a dit Alexei Navalny par le passé ne pouvait justifier sa détention, qui était purement motivée par des considérations politiques. Arrêté à plusieurs reprises simplement parce qu'il appelait ou participait à des manifestations pacifiques, en août 2020, alors qu'il rentrait d'une tournée électorale, il tombe gravement malade. Victime d'un empoisonnement, il a été emmené d'urgence dans un hôpital en Sibérie avant d'être transféré en Allemagne. Plongé dans le coma, il se réveilla un mois plus tard à Berlin, entouré par sa femme et ses enfants. Des experts indépendants en Allemagne et dans plusieurs autres pays ont diagnostiqué son empoisonnement au Novichok, une arme chimique extrêmement dangereuse. Le militant russe avait accusé les services secrets et Vladimir Poutine d'avoir orchestré son empoisonnement. De leur côté, les autorités russes ont refusé d'ouvrir une enquête sur l'empoisonnement. Après 5 mois de convalescence, Navalny décide de revenir en Russie en 2021, malgré les menaces d'arrestation et d'emprisonnement. La menace était bien réelle, puisque le 17 janvier 2021, alors qu'il sortait à peine de l'avion, Navalny est arrêté par la police russe. Après plusieurs jours de détention provisoire, la justice a finalement condamné le militant à 2 ans et 8 mois de prison. La raison ? Non-respect d'un contrôle judiciaire lié à une ancienne condamnation de 2014. Une parodie, lorsqu'on sait que Navalny se faisait soigner en Allemagne. Après cette arrestation, des manifestations ont gagné toute la Russie pour demander sa libération et pour protester contre la corruption au plus haut niveau du pouvoir. Depuis 2021, Navalny purgeait une peine de prison, d'abord dans la colonie pénitentiaire de Pokrov, réputée comme étant l'une des prisons les plus sévères du pays. Sa santé se dégradait. Les autorités pénitentiaires russes lui ont refusé un accès aux soins. Le 4 août 23, le tribunal de Moscou l'a condamné à 19 ans d'incarcération dans une colonie pénitentiaire pour des chefs d'accusation comprenant entre autres l'incitation à l'extrémisme et à la réhabilitation du nazisme. Une nouvelle condamnation qui ajoutait 10 ans supplémentaires à sa peine initiale. Les nouveaux chefs d'accusation étaient liés aux activités de la Fondation anticorruption fondée par Navalny qui a été interdite par les autorités russes en 2021 et à des déclarations faites par des membres de la Fondation. La Fondation anticorruption était enregistrée légalement en Russie avant l'emprisonnement de Navalny. La désignation arbitraire de l'organisation comme extrémiste a fourni un motif pour les poursuites qui ont suivi contre Navalny et ses associés. Les autorités russes ont tout fait pour museler cette voix critique. Elles sont déterminées à enfermer quiconque ose dénoncer et critiquer le pouvoir. Une enquête indépendante doit s'ouvrir. Et on est très impressionné par la foule de personnes qui, malgré les risques, sont venues rendre un dernier hommage à ce militant anticorruption. On va maintenant écouter une chanson de Léo Ferré, La Fiche Rouge.
Aragon, La Fiche Rouge.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient pour vous sans yeux le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Quelle puissance, hein, ce oui. texte, cette mise en musique.
Oui, inspirée de la lettre
de Manoukian.
De Manoukian à sa femme. Voilà, étonnant pays que la France, qui, presque en même temps, fait une des lois les plus liberticides contre les migrants, en méconnaissant tous les apports de ces migrants, justement, en voulant à tout prix les renvoyer chez eux, en leur laissant faire des traversées extrêmement dangereuses. Et en même temps, quelques jours après, on fait rentrer au Panthéon ces étrangers qui ont défendu la France. Voilà, c'est il y a de quoi s'interroger quoi hein, sur ces doubles faits quoi de cette loi sur les migrations terrible pour les gens qui fuient le danger, la misère, la guerre. Et puis cette entrée au Panthéon de ces étrangers. Voilà.
80 ans après.
Ouais. Je vous laisse réfléchir à cela. On va maintenant parler d'une autre personne, Julian Assange, qui court de très grands risques d'être renvoyé aux États-Unis. Il y a une pétition sur le site d'Amnesty que vous pouvez aller signer. En effet, Julian Assange est actuellement détenu dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni, uniquement au motif d'une demande d'extradition formulée par les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks avait publié des documents secrets qui pointaient de possibles crimes de guerre commis par l'armée américaine. Depuis, le gouvernement américain le poursuit sans répit. Une vaste offensive contre le droit à la liberté d'expression. La publication de ces documents ne devrait pas être passible de sanctions, car il s'agit d'une pratique courante du journalisme d'investigation. Les poursuites engagées contre lui pourraient avoir un effet dissuasif sur le droit à la liberté d'expression et inciter les journalistes à pratiquer l'autocensure de crainte d'être poursuivis. Si Julian Assange est extradé vers les États-Unis, il risque de subir de graves violations de ses droits fondamentaux. Il risque notamment d'être détenu dans des conditions qui s'apparentent à des mauvais traitements, voire à la torture. De hauts représentants du gouvernement américain ont lancé depuis plusieurs années une campagne publique de dénigrement contre lui. Cette campagne porte atteinte à son droit à la présomption d'innocence et l'expose au risque d'un procès inique. Protéger le droit à la liberté d'expression, demander aux autorités des États-Unis d'abandonner les accusations d'espionnage et toutes les autres charges retenues contre Julian Assange, qui repose uniquement sur ses publications au sein de Wikileaks. Voilà, encore un défenseur de la liberté d'expression menacé. On va maintenant écouter une chanson de Zao de Sagazan, Tristesse.
Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marinettis je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Marionnettis je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Marionnettis je suis et sûrement voilà, ça c'est pas moi. Mais qui va là? Mais qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Marionnettis je suis et sûrement pas l'inverse. Contrôle total des sentiments, la tristesse me déteste. Marionnettis je suis et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions, création, je contrôle tout le reste. Je contrôle. Qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse.
Marionnette, on est et on le reste. Marionnette, on est et on déteste. Marionnette, on est. Marionnette, on est. Ah, je déteste.
Voilà, on va maintenant parler de la mort de Robert Badinter. Son combat, bien sûr, reste bien vivant. Nous tenons à saluer la mémoire de cet infatigable militant pour les droits humains en général, et plus particulièrement pour l'abolition de la peine capitale qui aurait été le combat de sa vie. Tout au long de sa vie, en effet, il aura incarné la lutte pour le droit international et pour le respect des droits fondamentaux, à commencer par son opposition inlassable à cette peine inhumaine et insoutenable qu'est la peine de mort. Monsieur Badinter avait rejoint le combat d'Amnesty International dans ce vaste mouvement représentant notre organisation à la Conférence internationale sur l'abolition de la peine de mort à Stockholm en 1977. Il disait « Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'antijustice, parce qu'elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de l'humanité. Hier, le Zimbabwe a annoncé renoncer à la peine de mort et pourrait devenir le 145e État à abolir cette pratique. Cette annonce n'aurait certainement eu lieu si le mouvement international pour l'abolition n'avait pas exercé une telle influence. Ce mouvement n'aurait certainement pas été aussi important si un jeune avocat infatigable et d'une détermination sans faille devenu ministre de la Justice n'avait réussi à convaincre la société française, encore très largement hostile à cette idée, qu'il fallait en terminer avec la peine de mort. Le 10 octobre 1981, donc, il obtiendra l'adoption d'une loi qui abolit la peine de mort. À cette époque, seuls 35 pays avaient alors aboli la peine de mort, et nous en sommes bientôt à 145. Droit des mineurs isolés en prison, conditions de détention, lutte contre les discriminations des homosexuels, Robert Badinter reste pour nous un exemple de détermination et de courage politique. À l'inverse de ceux qui s'engagent dans des politiques démagogiques au détriment de la dignité humaine, il nous a montré que celles fondées sur les droits fondamentaux pouvaient au contraire donner un sens plus noble à la politique et au final changer les opinions, a salué Jean-Claude Samoulier, qui est le président d'Amnesty France. Et puis Antoinette Chahine, qui est une défenseuse des droits humains, qui parcourt le monde pour donner son témoignage contre la torture et contre la peine de mort, puisqu'elle a vécu la torture et elle avait été condamnée à tort pour un crime qu'elle n'avait pas commis, condamnée à mort. Elle a fait un hommage à Robert Badinter, parce qu'elle était très proche de lui, et je vais vous le lire. Je voudrais rendre hommage à M. Robert Badinter. Il était mon ami, un soutien permanent dans tous mes combats. En tant qu'ex-condamné à mort dans mon pays, le Liban, j'ai eu l'honneur de le rencontrer à plusieurs reprises et de l'avoir à mes côtés au sein de CPM, c'est Ensemble contre la peine de mort, et d'autres prestigieuses ONG. Ces combats pour une justice universelle, pour l'abolition de la peine de mort dans le monde, m'ont toujours porté et je m'engage jusqu'à mon dernier souffle à poursuivre nos combats communs. L'esprit de vengeance ne l'a jamais habité. Je partage ce même sentiment avec une force indicible vis-à-vis de mes bourreaux. Au nom de tous les prisonniers privés de leurs droits, je le remercie d'avoir aussi su consacrer sa vie au respect de leurs conditions de détention. Monsieur Robert Badinter reste et restera à jamais un exemple de justice, d'humanisme, qui m'accompagne dans mon combat pour la vie. Antoinette Chahine, franco-libanaise, défenseur international des droits humains. On va écouter maintenant l'interview qu'a donnée M. Badinter à Amnesty. Et puis on finira ce passage sur Badinter par la chanson de Julien Clerc, L'assassin assassiné, qu'il avait composée justement après avoir été influencé par Robert Badinter.
La France n'est pas le pays des droits de l'homme. Nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme et le moindre des choses est évidemment d'être fidèle à cette inspiration. L'abolition, ça a été un grand combat en France et je dois mentionner à cet égard la constante attitude d'Amnesty à l'encontre de la peine de mort, toujours menée campagne. J'ai peine, je dois le dire, à évoquer ce qu'était l'attachement séculaire des Français pour la peine de mort. Et on ne peut pas dire qu'ils souhaitaient majoritairement sa disparition. À chaque fois qu'il y avait un grand crime, à chaque fois, c'était la même vague de demandes de mise à mort. Et moi, qui ai plaidé dans ces périodes, bien des affaires où était en jeu réellement la vie et la mort de l'accusé, je ne bénéficiais pas d'une popularité remarquable. Au contraire, je peux vous dire que les abords du palais étaient remplis d'une foule qui criait « À mort, à mort, à mort !» Le climat n'était pas bon. Le matin du débat sur l'abolition, il y avait un sondage publié dans un grand journal de droite pour la peine de mort, 67%. Le président de la République élu avait annoncé sa volonté d'en terminer avec la peine de mort. En votant pour une majorité de gauche, il savait qu'au programme de chacun des partis de gauche, il y avait l'abolition. Donc le moins qu'on en puisse dire est qu'on ne les a pas pris de surprise. Nous sommes un pays dont, très souvent, les responsables politiques présentent à l'étranger une vision irénique qui dira « la France, pays des droits de l'homme ». La France n'est pas le pays des droits de l'homme. Sa terrible histoire, depuis des siècles, et notamment depuis la Déclaration des droits de l'homme, témoigne de ce que la France n'a pas été, hélas, le pays des droits de l'homme. Mais ce qui est certain, c'est que la France est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme et le moindre des choses est évidemment d'être fidèle à cette inspiration. On ne peut pas se réclamer des droits de l'homme et avoir la privation de la vie, c'est-à-dire la première atteinte concevable aux droits de l'homme, premier des droits étant la vie, dans la législation. Je prends les démocraties européennes occidentales, nous étions le dernier et le seul pays en Europe à conserver la peine de mort. La France a aboli. La courbe des crimes sanglants va se maintenir. En fait, elle a descendu, elle a diminué pour d'autres raisons. Je ne tiens rien contre le crime. Toutes les statistiques concordent qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas la peine de mort. La courbe du crime sanglant suit son chemin. Et les Français s'en rendent compte qu'on peut vivre sans la guillotine. Il faut continuer. Continuer, toujours rappeler les mêmes principes, dénoncer les mêmes injustices. Vous savez, quand on regarde de près derrière l'administration judiciaire de la peine de mort, se dissimule tous les poisons d'une société. Moi, je n'ai jamais vu un fils ou une fille de banquier américain dans les cellules des condamnés à mort. Mais les plus infortunés des Noirs des États-Unis, vous les comptez en nombre. Le racisme peuple les cellules de condamnés à mort. Et l'inégalité sociale, et l'inégalité culturelle, et l'inégalité de richesse entre les pays, tout cela joue. Et derrière le masque de la justice, en réalité, c'est tous les préjugés et c'est tous les poisons d'une société qui se libère. C'était fini pour moi. La peine de mort était terminée depuis le 30 septembre 1981, pour être apprécié à midi 20 au Sénat. Mais au-delà, à l'ensemble du monde, l'abolition, pour moi, n'a de sens que universel. Donc, depuis 1981, c'est à l'abolition universelle que je me suis consacré au sein d'Amnesty, ou maintenant que là j'ai venu aux côtés d'Amnesty. Quand je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale en 1981, nous étions le 37e État dans le monde à abolir la peine de mort. Mais quand je vois tous les deux ans aux Nations Unies l'appel au moratoire sur la peine de mort, présenté d'ailleurs par quelques grandes démocraties occidentales, dont la France, je vois que le nombre s'accroît de votes en faveur du moratoire universel, que le nombre des États opposants décroît, mais très lentement. Comment ne dirais-je pas que nos amis de ces pays-là doivent encore lutter, beaucoup lutter, difficilement lutter, mais que nous qui avons le privilège d'avoir réussi à construire des civilisations axées sur les droits de l'homme et donc abolies la peine de mort, nous devons les aider. La tâche d'Amnesty, elle est là, c'est l'abolition universelle. La marche vers l'abolition universelle, elle se poursuivra et ça sera acquis. J'en suis sûr, je ne verrai pas, mais ce sera acquis.
C'était un jour à la maison, je voulais faire une chanson d'amour peut-être, à côté de la fenêtre, quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono et moi penché sur mon piano comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots à ma musique. Le matin même, à la santé, un homme avait été exécuté et nous étions si tranquilles. Là, au cœur battant de la ville, c'était une fin d'après-midi à l'heure où les ombres fidèles sortant peu à peu de chez elle, compose doucement la nuit. Comme aujourd'hui, ils sont venus à pas de loup, ils lui ont dit d'un ton doux, c'est l'heure. Il les a regardés sans couleur. Il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre? Il a dit oui. Il a pas pu. Il a pris une cigarette. Sur mon travail tombait le soir, mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano, paroles et musique de personne, et j'ai pensé à ce salon où sans laver sur le pavé par ces bourreaux. Je ne suis président de rien, moi je ne suis qu'un musicien, je le sais bien, et je ne
moi cette chose. Messieurs les assassins, commence, oui, mais la société recommence. Le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore, c'en est encore. Chacun son tour, ça n'est pas drôle. On lui donne deux, trois paroles et un peu d'alcool. On lui parle, on l'attache, on le cache dans la cour. Un grand noir protège sa mort des regards. Et puis ensuite, ça va très vite, le temps que l'on vous décapite. Si je demande qu'on me permette, à la place d'une chanson d'amour peut-être, de vous chanter un silence, c'est que ce souvenir me hante. Lorsque le couteau est tombé, le crime a changé de côté. Si j'y ce soir dans ma mémoire, un assassin assassiné, assassiné, assassiné.
Voilà, très forte chanson de Julien Clerc, écrite en 81. Voilà, donc maintenant je vais vous parler d'une lettre ouverte que notre président Jean-Claude Samouyer a adressée à Emmanuel Macron. Monsieur le Président, depuis le 7 octobre 2023, jour où le Hamas et d'autres groupes armés ont commis des crimes abominables auxquels les autorités israéliennes ont répondu de façon disproportionnée, la question de l'arrêt des livraisons d'armes, de pièces détachées et de munitions à Israël, mais aussi au Hamas et aux autres groupes armés palestiniens, est régulièrement soulevée. Et au fur et à mesure que le bilan humain s'alourdit, elle prend de plus en plus d'importance et revêt un caractère d'urgence. Le 26 janvier, un arrêt de la Cour internationale de justice est venu poser par extension et de façon plus accrue encore cette question des transferts d'armes et de matériel de guerre à Israël par tous les États, dont la France. La CIJ a en effet ordonné à Israël, à titre de mesure conservatoire, de s'abstenir de commettre des actes entrant dans le champ d'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Par cette décision et au regard du désastre humanitaire qui prévaut actuellement dans la bande de Gaza, tous les États, y compris ceux qui ont critiqué le dépôt de plainte pour génocide de l'Afrique du Sud ou s'y sont opposés, ont clairement l'obligation de veiller à l'application de ces mesures. Cela passe par un appel à un cessez-le-feu durable qu'Amnesty International réitère depuis des mois, mais aussi par un arrêt des livraisons d'armes et de matériel de guerre à Israël. En tant qu'État partie de la Convention sur le génocide, la France doit respecter un devoir de prévention du génocide. Cela implique notamment de ne pas fournir à Israël des moyens lui permettant de commettre des actes entrant dans le cadre d'un risque de génocide. Voilà une partie de cette lettre adressée au président Macron. On va maintenant écouter la Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la Symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Voilà, on va terminer cette émission pour vous parler un petit peu de l'action du groupe Dinois. Donc, on est au mois de mars, et au mois de mars, c'est le festival de films au cinéma pour les droits humains. C'est la 11e édition cette année. On revient sur les écrans de Provence et d'Occitanie pour des ciné-débats autour d'une quarantaine de films sélectionnés par Amnesty International. Un festival d'autant plus important que la sensation du recul des droits humains, même dans des démocraties, pourrait nous faire oublier que partout, les droits acquis sont le résultat de la mobilisation de femmes et d'hommes qui ont agi et agissent dans leur pays contre l'impunité de ceux qui les violent. Le cinéma est un lanceur d'alerte et un témoin fort du combat pour défendre les droits humains. Donc, à Digne, nous y participons. Première séance, c'est le jeudi 14 mars à 18h. On va passer le film Inch'Allah, un fils. C'est un film jordanien, primé lors de la semaine de la critique du dernier festival de Cannes. Ce film raconte la difficulté d'être une femme de nos jours en Jordanie, d'autant plus lorsque votre mari vient de mourir subitement. Ensuite, le jeudi 21 mars, nous allons passer 6 courts-métrages pour une séance gratuite. Donc, les courts-métrages sont Frontera, film espagnol, Solina, espagnol aussi, Coupable, Danser avec la réalité, film français, La Grenade Noire, film français aussi, et Open Call, film français. Voilà, donc 6 courts-métrages qui vont parler de migrants, de migration, de harcèlement aussi, hein, puisque c'est un thème d'actualité, hélas. Voilà, et puis sur aussi le thème des femmes et des filles. Voilà. Et la dernière séance à Digne sera le jeudi 28 mars à 18h15, La RAF oubliée. Alors, c'est un documentaire sur la destruction du quartier de Saint-Jean à Marseille, au Vieux-Port. Hein, vous voyez la mairie, et ben, vous savez, des bâtiments de part et d'autre qui sont dans des années 1950. Mais en fait, existait là un quartier, tout un quartier de petits commerçants, de pêcheurs. Beaucoup de migrants habitaient là aussi. En fait, c'était le panier qui descendait jusqu'au Vieux-Port. Voilà, et cette population a été évacuée de façon très brutale, déportée, et les immeubles et les maisons, les ruelles de ce cœur battant de Marseille ont été détruits par la fureur nazie et la complicité de la police française. Voilà, donc pour présenter ce film et pour répondre aux questions, nous avons invité Andrew Knapp, qui est un historien diplômé des universités d'Oxford et de Cambridge et qui est spécialiste de la politique française et notamment de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Donc il pourra vous éclairer, les spectateurs, de ses connaissances. Voilà, ça s'appelle « La rafle oubliée » de Fabio Lucchini. Ce sera donc le jeudi 28 mars. Alors les trois séances auront lieu au Ciné-Étoile. Prix d'entrée 5 euros. Mais la deuxième séance, l'entrée sera gratuite. Ce sont des courts-métrages que Ciné-Étoile et Amnesty offrent à la population dinoise. Voilà, on aura aussi le festival du côté de Sénès, Castellet-les-Sauzes et Moriez. En effet, il va y avoir des séances chez l'habitant. Alors à Sénès, le mardi 5 mars, c'est-à-dire demain à 18h30, il faut s'inscrire à Art Culture La Chouette, puisque c'est en partenariat avec Amnesty International. Au Castellet-les-Sauzes, le vendredi 8 mars à 18h30, dans la salle polyvalente, entrée libre et gratuite. Et à Moriez, chez l'habitant aussi, le vendredi 15 mars à 18h30. Là, il faut aussi s'inscrire sur le site de Art et Culture La Chouette. Voilà. Et puis, ils vont faire aussi trois séances dans les écoles. Voilà pour le festival du film au mois de mars. Et puis, je vous rappelle que va arriver bientôt notre fameuse foire aux livres de printemps. Ce sera le vendredi 12 avril et le samedi 13 avril. Alors, le vendredi de 9h à 18h, non-stop, et le samedi de 9h à 14h. Voilà, on va terminer par la chanson d'Aznavour, « Ils sont tombés ». Avant, je voulais vous dire que Amnesty engage les militants de son mouvement à participer le 8 mars à la grève des femmes dans ce combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, on écoute Aznavour.
Merci Régis, et au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres. Mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi, ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte. Un troupeau de désert titubant en corde, terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés uniquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge. Devenant un instant, minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces. Terrassés, oubliés dans leur dernier sommeil, ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture,
qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps. Au bout de leur courage, la mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie.